Bonjour auditeurs, aujourd'hui dans les studios de Radio Grenouille, Marc Mercier et Sophie-Charlotte Gauthier ont répondu, alors même pas vraiment tout à fait à notre invitation. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir Marc Mercier, qu'on reçoit assez régulièrement sur les ondes de Grenouille, de par son activité vidéo poétique et politique, et c'est ce qu'on aime bien dans ton travail, Marc.
Merci,
c'est
bonjour.
Que tu sais, merci et bonjour, c'est que tu sais allier c'est ça, c'est ces univers-là, tricoter le poétique et le politique. Et il se trouve que à partir du 5 novembre s'ouvre ton festival et que c'est le 30e. Alors là, on se dit, bah, il faut faire un petit quelque chose particulier. Puis en discutant comme ça autour d'un café dans votre petit local ici à La Friche, en cherchant comment parler de ce 30e anniversaire, tout de suite est sorti l'évocation le souvenir d'un film, Les Pisseuses, et le nom d'une de celles qui l'a réalisé, Sophie-Charlotte Gauthier, qui est aussi là,
Coucou.
Dans ce studio. Et je vous ai proposé à tous les deux une conversation entre vous, mais pour nous tous qui vous écoutons là. Moi, je vais rester dans le studio et me taire. Jean-Baptiste est à la technique et va écouter. Et je pense que ça, vous allez commencer comme ça, sur cette rencontre qui est pas dans les tout débuts de... C'est pas la première année du festival, mais c'est très proche du début de ton festival.
Oui, oui, c'était il y a une vingtaine d'années. Bon, on va pas transformer Radio Grenouille en Radio Nostalgie, mais...
Non. Non, d'autant que je pense que le futur est quelque chose qui te tient vraiment à cœur.
Oui, oui. Donc bonjour Sophie-Charlotte.
Coucou Marc.
Non, mais c'est vrai qu'en pensant à l'évocation de cette vidéo faite par les Pisseuses, je me suis souvenu en fait comment s'était opérée cette rencontre, qui s'est faite en fait en deux temps, parce que j'avais été invité par un des plus grands artistes vidéo qui s'appelle Jean-François Guiton, qui sera d'ailleurs présent cette année pour montrer son dernier travail, qui est vraiment un artiste qui est assez extraordinaire, non seulement par la détermination de son travail, un travail extrêmement fort, rythmé, très méthodique. Et Jean-François aussi se soucie de la transmission, puisqu'il enseigne aujourd'hui à l'école d'art de Brême en Allemagne, mais à l'époque, il enseignait aux arts décoratifs de Strasbourg, où tu étudiais.
Exactement, ouais. C'est lui qui m'a fait découvrir la vidéo, qui m'a emmené dans ce territoire.
Et Jean-François donc, m'avait invité pour à la fois présenter une programmation des instants vidéo, mais aussi rencontrer des jeunes réalisateurs et étudiants, que je puisse discuter avec eux, réagir devant leur travail. Et puis, à peu près, je crois, juste avant de partir, il me dit « Ah, mais il y a une vidéo que tu n'as pas vue, je suis sûr que ça t'intéresserait. Qui a été fait par un groupe de filles qui sont pas contentes de la manière dont fonctionne l'école d'art parce que c'est un peu machiste et elles ont fait une vidéo où elles montrent que les femmes sont aussi capables de pisser debout. Bon, moi sur le coup je me suis dit ouais, c'est une grosse boutade tout ça, mais quand même j'étais intrigué parce que Jean-François est quelqu'un de tellement rigoureux, tellement exigeant, je me suis dit s'il m'en parle c'est que ça doit quand même avoir une qualité esthétique, artistique et avec du sens. Et alors il m'a donné tes coordonnées, je t'ai écrit et tu m'as envoyé la vidéo et on a aussitôt décidé non seulement de la montrer mais de vous inviter. Peut-être que tu pourrais nous dire quelques mots sur ce travail.
Oui, ben la vidéo Les Pisseuses, enfin, qui normalement s'appelle sans titre, hein, c'est une vidéo signature, un petit peu un manifeste. À l'époque, on était quatre étudiantes à l'école des arts décoratifs de Strasbourg, et donc dans une école où primait pas mal l'individualité, où on était quand même entouré de professeurs masculins, enfin, il y avait quand même très peu de... très peu de féminité à cet endroit-là. Et nous, on éprouvait la nécessité de revendiquer une légitimité d'un langage féminin. Et donc, on a commencé à faire des interventions, à créer ce collectif des pisseuses, à faire des interventions performées, de la vidéo, des graffitis à la craie sur les murs, des textes, à la fois des textes et des dessins, des choses poétique, hein, mais pour partager un intime et l'amener dans la sphère publique avec des questions qui relevaient de la sexualité, du corps, cet univers très intime qu'on pouvait partager à quatre et donc qu'on essayait de partager avec l'autre. On n'était pas tellement engagé dans... Enfin, on n'était pas... C'était pas une démarche dans la droite ligne des courants féministes des années 70. Nous, on était plus dans le désir de rencontre de l'autre, des autres, et puis dans quelque chose de vivant et d'assez ludique quand même. Et donc, cette vidéo, Les Pisseuses, c'est une vidéo manifeste qui est à la fois qui propose un jeu et qui est assez douce, finalement. Je ne vais pas la décrire puisqu'elle va être... on va la voir pendant le festival des instants vidéo, mais...
Elle va être montrée sous forme d'installation.
Voilà.
Donc à la Friche de la Belle de Mai, à partir du 11 novembre jusqu'à début décembre. Mais on va la montrer en fait dans les mêmes conditions que celles de la première fois où nous l'avions montrée à Manosque, puisqu'à l'époque le festival était à Manosque. Et tu te souviens de ce qui s'est passé?
Oui, c'est vrai qu'à l'époque, nous, on était toutes jeunes et la presse s'était emparée quand même, avait été assez virulente quant à cette vidéo et une autre vidéo aussi, je crois, qui faisait un peu scandale. Mmh. Et la presse avait titré « C'est de l'art ou du cochon
ouais. ».
qui avait amené une surenchère. Enfin, il y a pas mal d'artistes qui s'était mobilisé pour répondre aussi à la presse. Je crois qu'il y avait eu... Tu le raconterais mieux que moi, je crois, Marc.
Non, tu le racontes très bien. Il y avait Jean-François Guiton, qui était là aussi. Et notre grand Gianni Totti.
Voilà.
Qui avait aussi fait un courrier très poétique et très politique à la presse. En fait, tout le monde, tous les artistes voulaient... En fait, ont proposé à ce journaliste de faire un débat public sur les rapports de l'art et de la sexualité. Mais évidemment, c'est un sujet qui a fait peur. Mais je trouve ça extraordinaire qu'on la remontre aujourd'hui, juste au moment où il se passe quand même un phénomène assez, assez puissant, puisque toutes ces paroles de femmes sont en train de briser l'omerta qui entoure toutes les agressions sexuelles et le machisme dominant. On n'avait pas prévu, quand on a décidé de remontrer ce travail cette année, que ça allait tomber pile sur cette période. Et je trouve, c'est vrai qu'il y avait peut-être, vous n'aviez peut-être pas conscience en fait de la portée de ce travail, donc on ne va pas le décrire, mais qui est d'une très très grande simplicité, mais je trouve qu'il y a une force poétique et politique tellement puissante, et je trouve que vraiment ça tombe bien. Moi, je suis vraiment très très content qu'on puisse la remontrer cette année.
Non, mais c'est vrai que, de toute façon, on n'a pas... Enfin, voilà, les combats à mener pour les femmes et la place de la femme dans la société, y a beaucoup à faire, mais aussi dans le milieu de l'art. Les femmes, la place des femmes et la place du langage féminin. Enfin, on parle d'artistes, en général, c'est les hommes. Et quand on parle d'artistes, des femmes, on dit une artiste femme et... Finalement, la place des femmes au niveau artistique, elle est toujours à défendre et à chercher.
Mais tu vois, la semaine dernière, j'étais à Rome pour présenter des programmations vidéo. Et j'étais surpris qu'une des questions qui a été posée, c'était « Mais pourquoi vous avez choisi une majorité de réalisatrices ?» Et je me suis dit, si j'avais choisi une majorité de réalisateurs, personne n'aurait remarqué ça. C'est quand même assez incroyable que... Ça fait toujours figure. Alors, du coup, le débat avec la salle, ça a été ça. Est-ce que nous sommes un festival féministe? Moi, je n'ai pas trop pu répondre à cette question. Je ne sais pas si on est un festival féministe, parce que Jamais on choisit les œuvres en fonction du sexe de la personne qui l'a réalisé. On ne va pas faire le contraire du machisme. Je trouve que ça serait contre-productif, quoi. Par contre, et la discussion du coup a continué là-dessus, c'est que peut-être que les femmes ont plus de choses à dire. En tout cas, peut-être qu'il y a des urgences plus importantes qui font qu'elles se sont saisies de ce médium qui, du fait qu'on puisse avoir assez facilement accès au matériel, pour, à la fois pour tourner et aussi pour faire les montages, ça permet aussi de contourner tous les barrages qui existent par exemple dans l'industrie du cinéma, qui existent dans à peu près tous les milieux artistiques, hein, malheureusement. Et donc les femmes se sont saisies de cet outil pour s'exprimer, mais... Et là, je reviendrai à ta vidéo. Je trouve que sa force, c'est qu'elle, c'est une œuvre qui métamorphose, j'ai envie de dire, une colère en une œuvre d'art. Et c'est peut-être, je pense que si les instants vidéo avaient à se définir, ça serait ça, quoi. C'est accompagner les artistes qui métamorphosent une colère en une œuvre d'art. Peut-être qu'on pourrait écouter une bande-son d'une vidéo de Pascal Lièvre qui s'appelle L'Axe du Mal, parce que je trouve que c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Un jour, Pascal entend ou lit dans un journal le discours de George Bush quand il annonce pour la première fois que le monde était divisé en deux, d'un côté les gentils, donc nous, et de l'autre côté les méchants. Et il parle de l'axe du mal. Et quand Pascal Lièvre a entendu ce texte, il s'est dit « Oh là là, ça c'est une déclaration de guerre ». Et à une déclaration de guerre, il faut opposer une déclaration d'amour. Et donc il décide d'aller tourner son film à Niagara, parce que d'une part Niagara c'est juste en face des États-Unis, c'est ce qui sépare les États-Unis du Canada, et c'est aussi un lieu un peu ringard, mais traditionnellement où les gens vont faire des voyages de noces. Et donc il utilise une chanson très populaire de Jermaine Jackson, le frère de Michael, et le texte de George Bush.
Comme cela est l'heure, alliés, terroriste constitue un axe du mal armé pour menacer la paix du monde en cherchant des armes de destruction. Massif ces régimes présents, un danger croissant, ils peuvent fournir des armes aux terroristes.
Faire vivre et étendre le meilleur de ce qui a émergé en Amérique, je vous invite
à rejoindre le nouveau corps de la liberté.
Vivez pas comme cela est l'heure. Alliés terroristes constitue un axe du mal armé pour menacer la paix du monde en cherchant des armes de destruction. Massif et régime présent, un danger croissant, ils peuvent fournir des armes aux terroristes. Des états comme cela est leur allié terroriste constitue un axe du mal armé pour menacer la paix du monde en cherchant des armes de destruction. Massifs et régimes présents, un danger croissant, ils peuvent fournir des armes aux terroristes.
Voilà, donc c'est un texte, une vidéo qui est malheureusement cruellement encore d'actualité, quoi. Mmh. Voilà, et Pascal Lièvre sera encore présent puisqu'on va montrer son dernier travail. C'est vraiment un artiste qu'on suit assidûment. Et cette année, il va présenter, rien que le titre, il n'y a même pas besoin de dire le synopsis, ça s'appelle « La race n'existe pas ». Mmh, voilà, ça sera montré le 11 novembre à la friche de la Belle de Mai. Alors, toi, tu es venu à Manosque assez tôt. Hein, et est-ce que tu sens, puisque tu as suivi le festival depuis Manosque jusqu'à notre arrivée à Marseille en 2004, est-ce que les choses ont changé? Comment tu sens le... Parce que nous, on a un peu du mal à prendre du recul.
Ben c'est drôle parce que donc moi j'ai découvert le festival, c'était dans les années 90-95 à Manosque, donc dans un petit village avec dans une MJC, et j'ai vu le festival se déployer aussi à Marseille, donc à la Friche, dans un endroit de culture. Et finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'état d'esprit n'a pas changé, en fait. Que le festival vit autrement et avec d'une autre manière. Mais la générosité du festival, sa convivialité, l'ouverture qui est faite à certains travaux n'a pas changé. Enfin, l'état d'esprit qui l'anime, la philosophie, enfin, ça reste, vous restez dans une droite lignée politique et poétique, et ça reste un festival non conventionnel, je trouve, par rapport à beaucoup de festivals qui sont plus dans une espèce de représentation, qui sont compétitifs. Aux instants vidéo, on peut... Enfin, je trouve que c'est magnifique, en fait, cette ouverture. On peut voir à la fois du Bill Viola, du Robert Cahen, du Hiraki Sawa, et découvrir des travaux de tout jeunes artistes à peine sortis d'école. Mmh. Et aussi cette ouverture au public. Moi, je trouve qu'il fait vraiment la patte des instants vidéo. Enfin, les instants vidéo vont se déplacer, proposent des projections, des concerts, des rencontres dans des lieux plus populaires, que sont la DPEI, le SARA, la RI. Et donc, c'est un festival qui va à la rencontre des publics, et des publics qu'on n'attendrait pas forcément dans un festival où, voilà, c'est pas un festival de l'entre-soi qui réunit une élite culturelle, artistique. Et ça, je trouve que cette générosité-là, elle est, c'est important d'en parler. La gratuité, je trouve que c'est aussi chose de très important.
Ça me touche beaucoup ce que tu dis, mais ça, c'est pas dû uniquement à moi, c'est qu'il y a vraiment une équipe. Il y a à la fois, bah, évidemment, des nouvelles générations qui sont rentrées dans l'organisation du festival, mais on est toujours très très proche des gens qui ont été là au début. Je pense notamment à Chantal Maire, qui est cofondatrice du festival avec Anne Van Den Steen. Et que le fait que ce festival soit né dans une structure d'éducation populaire, puisque c'était une maison des jeunes et de la culture, ça c'est ancré, j'ai envie de dire, dans nos gènes. Mm. Et on ne peut pas renier ça, bien au contraire. Et je pense qu'en plus qu'aujourd'hui, la situation est encore plus urgente qu'il y a 30 ans. Et d'ailleurs, quand on a commencé un peu à réfléchir comment célébrer ce 30e anniversaire des Instants Vidéo, alors qu'on n'a jamais célébré ni le 10e ni le 20e, parce qu'on a toujours trouvé que c'était un peu inintéressant de s'auto-célébrer. On a plutôt célébré notre art. Mmh. Cette année, on s'est dit, bon, quand même, 30 ans, c'est pas rien, parce que, en fait, démarrer un festival, c'est facile. C'est un peu comme les histoires d'amour, quoi. Les premiers temps, c'est toujours très facile. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est la durée. Mmh. Voilà, s'inscrire dans le temps. Sans perdre l'essentiel, c'est-à-dire tout en restant fidèle à ce qui a fait événement, l'événement de la rencontre. Et pour nous, ça a été l'événement d'une rencontre avec des œuvres, puisque c'est ça qui a déclenché l'envie de faire ce festival. Et tant bien que mal, on essaye de tenir le cap. Et alors, on s'est dit, il faudrait faire un anniversaire qui donne quelque part une image de ce que nous sommes, de ce que nous avons été, de ce que nous essayons de continuer à être. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire, en fait, sur toute l'année, 30 événements dans le monde, au Kyrgyzstan, Palestine, Égypte, Italie, etc., etc., plus plusieurs lieux sur Marseille. Donc, ce côté internationaliste, même si c'est un mot qui est plus à la mode, mais moi, ça m'évoque des choses plus agréables, l'internationalisme que le mondialisme. Mais aussi, être dans des lieux qui soient à la fois des lieux réputés culturels, comme la Friche de la Belle de Mai ou le FRAC, là où dimanche prochain, on va démarrer avec une installation et une performance de Lydie Paris, mais aussi des lieux qui, effectivement, ne sont pas des lieux directement dédiés à accueillir des œuvres d'art contemporain. Mmh. Donc, effectivement, tu les as cités. Donc, c'est des lieux sociaux, des lieux qui travaillent aussi avec le handicap mental. Voilà. Ce qui permet d'aller à la rencontre de publics qui ne viendraient peut-être pas spontanément. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme ça, c'est un travail qui s'inscrit sur le long terme, petit à petit, ils viennent aussi à la Friche, par exemple. Et toi, par exemple, cette année, la soirée d'ouverture officielle du festival, on va la faire au cinéma Les Variétés. J'ai presque envie de dire que, à la fois parce qu'on les adore, que c'est un cinéma qui a manqué de disparaître, et grâce à une mobilisation des publics et aussi de plein de structures, il a été sauvé. Mais peut-être que la vraie raison, c'est le nom de ce lieu, Les Variétés. Voilà. Et en fait, le monde que nous voulons, c'est un monde de variété. Et peut-être que les instants vidéo, comme d'autres manifestations, sont peut-être un peu des laboratoires d'un monde où régnera la variété des pensées, des sexes, des sexualités, des races ou tout ce qu'on veut, quoi. Et ce soir-là, du 11 novembre, on va montrer... Alors c'est intéressant parce que on verra l'épisseuse, qui est un travail ancien, mais on va aussi voir L'homme à la cape, qui est un travail tout récent que tu as réalisé au Danemark. Ça serait bien peut-être que tu en parles, puisqu'elle va te présenter lors de la soirée d'ouverture aux variétés le 10 novembre.
Oui, oui, d'ailleurs, je crois qu'on a un petit extrait sonore de L'homme à la cape. C'est un film que j'ai réalisé en résidence au Danemark cette année. J'y suis allée plusieurs fois avec Anne Loubet qui co-réalise le film. Et un film fait en immersion, un portrait d'un territoire et de l'état d'esprit des gens de ce territoire. C'est L'homme à la cape, en fait, c'est une... raconte la tempête. C'est une incarnation de la tempête, l'homme à la cape. On en parle dans le film. Et c'est un territoire situé dans le nord-ouest du Danemark, au Jutland. C'est un petit peu le mouton noir danois. Un territoire qui est balayé par les vents, les tempêtes, et dans lequel il est difficile de vivre. Mais où on craint la tempête parce qu'elle fait des ravages, hein, 2-3 fois par an, c'est chaud, hein, il faut s'accrocher au toit de sa maison pour pas le perdre. Mais à la fois, ça crée aussi, ça forge les esprits, les imaginaires, et ça, la tempête est presque désirée au final. Donc c'est ces paradoxes et... ces complexités-là, moi qui m'intéresse en général quand je fais des films, c'est de raconter des complexités émotionnelles et humaines. Voilà, donc je suis très heureuse moi d'être, de pouvoir présenter ce film aux variétés, et ça va être sa première présentation à Marseille et en France, donc voilà, c'est un beau cadeau.
Moi, quand j'ai vu pour la première fois ton film, qui n'était pas encore complètement terminé, à l'époque, tu travaillais encore le son, parce qu'il y a un travail sonore extrêmement important, ça m'a fait penser à un extrait d'un poème de Abdellatif Lahabi, le grand poète marocain, qui disait « Plutôt que sens, donner consistance à la vie ». Et je trouve que... parce qu'on pourrait... présenter ce travail comme étant un documentaire. Or, c'est pas, pour moi, uniquement un documentaire. Ça documente sur des sons, sur des ambiances, sur des visages, sur des expressions, sur des énergies. Mais tout ça, mis ensemble, ton travail n'est pas soumis à la dictature du sens. On n'est pas dans de la communication, c'est plutôt de la consistance. C'est ça que j'aime beaucoup.
Ouais, c'est un film, c'est une sorte de fable. Hein. Et l'approche documentaire, c'est d'une approche documentaire, effectivement, c'est le réel, hein, la rencontre avec le réel, mais dont on s'extrait pour aller vers une certaine poésie et puis une plasticité parce que voilà, on sait d'où on vient. Je fais pas des films pour la télévision c'est quand même une approche plus artistique, poétique, et puis qui reste ouverte à l'interprétation, qui pose juste quelques questions, quoi.
Tu nous fais écouter un petit extrait?
Ouais, volontiers. Donc une petite chanson danoise, sachant que la chanson est très très présente dans cette culture. Donc là, on va entendre une jeune femme qui chante, qui raconte la nécessité du vent dans la vie, même si parfois on le craint, on le désire aussi.
Jag kan segla för utan vind, jag kan ro utan åror, men aldrig skiljas från vännen min. Utan att fälla tårar. Da da di da di da da di da 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 di da 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 di da da da. Vem kan segla för utan vind? Vem kan dro utan åror? Vem kan skiljas från vänden sin utan att fälla tårar? Da-di-da-da-da-da. Ai-da-da-da-da.
Tu parlais de tempête, et ça me fait penser à cette histoire que Bertolt Brecht racontait quand il dit qu'il y avait des marins, justement, je crois que c'est au Danemark, qui voyaient arriver la tempête, et il disait qu'il y avait deux solutions. Il y avait soit laisser les bateaux au port et se protéger dans les maisons, et la tempête risque de tout ravager et tout le monde va mourir, et les bateaux vont être détruits, ils ne pourront plus aller à la pêche, soit user de son savoir-faire de marin et prendre le risque d'aller à la mer et affronter la tempête. Et pour moi, l'engagement des artistes et l'engagement d'un festival, c'est ça. C'est de ne pas rester dans le port et essayer avec les moyens du bord d'affronter les difficultés. Bon, pour moi, ton film est très très fort là-dessus. Voilà, il faut qu'on conclue. Donc, moi, j'ai envie de donner rendez-vous. Venez célébrer l'art vidéo, la poésie et la joie de créer malgré toutes les difficultés du monde actuel. Donc, ça démarre effectivement le 5 novembre au FRAC. Après, il y aura un enchaînement de vernissage d'installations dans différents lieux, et puis le 10 novembre, donc la cérémonie d'ouverture qui sera pas du tout conventionnelle aux variétés à partir de 18h, et après on enchaîne évidemment à la friche. Je voudrais juste dire deux choses. D'abord, l'état d'esprit du festival, c'est aujourd'hui dû à notre co-directrice Naïk Mseli. Extrêmement important, c'est elle qui tient le gouvernail. Moi, je rêve et elle, elle me fait avancer. Et l'autre chose, c'est que ce festival, où il y aura beaucoup de vivants, mais on l'a aussi dédié à deux personnes qui ont beaucoup compté pour nous, qui sont malheureusement morts cette année. Phil Spectrum de l'EDA Atomica et Jean-Paul Curnier, donc philosophe, acteur de Jean-Luc Godard et vidéaste aussi. Il se trouve qu'il y a 10 ans, on les avait rassemblés pour qu'ils fassent une conférence musicale, que tout ça a été filmé, et donc le 12 novembre, dans un lieu qui s'appelle La Fosse, dans le quartier de la Belle de Mai, nous rendrons hommage à ces deux amis trop tôt disparus.
Merci beaucoup à tous les deux pour vous être prêtés à ce jeu de la rencontre. Merci,
merci
Sophie,
merci.
Charlotte, merci. Gauthier, merci Marc Mercier. Cette année, donc, c'est les 30 ans des instants vidéo. On va venir célébrer ça avec vous tous les jours du 5 au...
Jusqu'à début décembre.
Jusqu'à début décembre. C'est parti.
Merci.
Tous les podcasts D38, radiogrenouille.com.